Merci d'écouter le programme du studio Kalangou. Il est 18h, le journal de ce jeudi 27 juin avec Nafis Adam. Au sommaire de cette édition, les médias internationaux qui diffusent au Niger et qui ne versent pas de redevances à l'État faute de textes y afférents seront bientôt assujettis à payer ces redevances. Le premier rapporteur du Conseil supérieur de la communication explique dans ce journal. Le prélèvement de la taxe de sortie engagée par la ville de Niamey doit concerner les transporteurs usagers des gares érigées par l'État et non les compagnies privées de transport qui paient déjà assez de taxes. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'Association des compagnies de transport voyageurs. À Diffa, malgré le contexte d'insécurité, des femmes regroupées en coopérative depuis 15 ans produisent du riz pour assurer l'alimentation de leur famille, une activité qui leur permet de vivre dignement. C'est le magazine de cette édition. Bonsoir à tous. Les médias internationaux qui diffusent au Niger et qui ne versent pas de redevances à l'État, faute de textes y afférents, seront bientôt assujettis à payer ces redevances. Le temps de signer le décret a indiqué aujourd'hui Ayuba Senikaka, premier rapporteur du Conseil supérieur de la communication, à l'occasion de la session en cours de cette institution.
Quand on a pris le projet de délibération, on a fait un avant-projet de décret sur cette question de redevances qu'on a transmis au gouvernement. Donc ce projet, quand il a été envoyé au gouvernement, il a été renvoyé au ministère de la Communication pour une seconde lecture à travers un comité mis en place par le ministère. Donc quand ils ont terminé leur travail, ils ont renvoyé les résultats de leur travail. Donc c'est ce qui a amené le Conseil supérieur de la Communication à revoir justement la délibération en question. L'importance de cette délibération, c'est que dorénavant, quand le décret sera pris, les médias, qu'ils soient nationaux ou internationaux, vont s'acquitter de leurs obligations, parce que durant tout ce temps, les médias internationaux ne payent rien à l'État du Niger en termes de redevances. Donc quand cette délibération sera adoptée et que le décret sera également adopté, l'État sera dans ses droits.
La carte de presse délivrée par le Conseil supérieur de la communication sera exigée pour tout journaliste désireux faire la couverture médiatique du sommet de l'Union africaine prévu la semaine prochaine à Niamey. Une annonce faite lundi par le président du Comité technique communication et médias de l'Union africaine Niger lors d'une rencontre avec les responsables des médias locaux et des correspondants des médias internationaux. Le rapporteur du Conseil supérieur de la communication, Seyni Ayoub Kaka, s'exprime sur ce sujet.
Au niveau du Conseil supérieur de la communication, si les journalistes déposent leurs dossiers et que les dossiers sont conformes, il n'y a pas de raison que le CSC empêche aux journalistes d'avoir la carte de presse. Et pour preuve, au cours de chaque session, on reçoit des lots de demandes de carte de presse qu'on examine. Et que tant que les dossiers sont conformes, le Conseil supérieur de la communication, la plénière notamment, délivre la carte de presse au journaliste. Donc que l'UA exige que le journaliste ait une carte de presse pour avoir l'accréditation, c'est une organisation, c'est tout à fait normal. Mais le CSC n'a rien à voir avec cette question. Et aujourd'hui, ce que les gens veulent là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on est à la veille du sommet que le CSC va se permettre de délivrer aux journalistes la carte de presse. Parce qu'il y a des textes, il y a une procédure, on ne peut pas brûler ces étapes.
Le gouvernement nigérien a décidé lors de sa réunion de mardi à Niamey la révocation des maires des communes urbaines d'Agadez, de Diffa et de la commune rurale de Chadakori pour des pratiques frauduleuses de la gestion financière, comptable, administrative et foncière. C'est ce que rapporte le quotidien Le Sahel d'aujourd'hui, qui précise par ailleurs que le conseil municipal de la commune rurale de Fakara, département du Boboy, est dissous pour des manquements relevés de la gestion administrative et financière ainsi que le fonctionnement irrégulier du conseil municipal. Sensibiliser la population de la commune rurale de Tonbo-Kirei sur les problèmes de santé et de scolarisation de la jeune fille à cause du mariage précoce, c'est le mobile d'une mission en cours de la région de Dosso, composée de parlementaires de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale du Niger. Le reportage de Aoussi Abdrahman.
Des filles non scolarisées qui apprennent la couture se sont exprimées devant les parlementaires pour dénoncer le mariage précoce et montrer l'importance d'apprendre un métier.
Nous leur apprenons la couture classique, le tricotage crochet, la confection de draps, le tricotage à la machine, la cuisine et la culture générale. Nous avons recruté des jeunes âgés de 14 à 30 ans pour leur donner une formation professionnelle de 2 à 3 ans. La formation est sanctionnée par un diplôme qui permettra à l'apprenant d'être à son propre compte. Nous sommes 3 formatrices ici. Nous avons 18 jeunes femmes mariées et 27 filles que nous formons.
La députée Nana Hadiz a attiré l'attention des parents sur la fistule obstétricale qui peut apparaître en cas de mariage précoce et aussi sur l'importance du maintien de la fille à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans.
Je dirais à la population grand merci parce qu'ils ont compris qu'elle ne sert à rien de marier les filles précocement parce que ça a beaucoup de risques. Non seulement des risques sur la santé, mais ça entrave également l'épanouissement de cette jeune fille.
Les actions de sensibilisation se poursuivent dans la région de Dosso par le gouvernement et ses partenaires en vue de réduire le fléau qu'est le mariage précoce.
Des dizaines de bus de transport avec voyageurs et leurs bagages étaient bloqués lundi à la sortie de Niamey pour refus de payer la taxe de sortie demandée par les responsables de la ville de Niamey. Pour Abdrahmane Sanata, porte-parole de l'association des compagnies de transport voyageurs, cette taxe doit concerner les transporteurs usagers des gares érigées par l'État et non les compagnies privées de transport qui paient déjà assez de taxes. Il est au micro de Asman Ashina.
Nous pensons que cette taxe de sortie ne nous concerne pas. Elle doit concerner plutôt les transporteurs des autogares construites par l'État ou la mairie. Les transporteurs qui prennent les passagers là-bas payent la taxe de sortie. C'est pour cette raison même que cette loi est faite. Mais celui qui loue un local, qui paye la patente et toutes les autres taxes, ne doit pas payer la taxe de sortie encore. Aussi, de Niamey à Difa, il y a environ 100 communes et chaque commune va réclamer cette taxe de sortie. Donc on ne peut même pas voyager car tu ne peux pas parcourir 40 kilomètres sans traverser une commune. Nous considérons que cette taxe de sortie fait partie des autres taxes que nous payons déjà dans nos gares.
Au Niger, le régime militaire de 1974 à 1987 a jeté les bases de la naissance des organisations de la société civile avec l'ordonnance de 1984, rapporte le juriste Jibrila Barchi lors du lancement du programme d'appui aux OSC par octroi organisé ce matin à Niamey. Jibrila Barchi sur des propos recueillis par Adama Dawaki.
Avant, on ne parlait pas de société civile. Les organisations de femmes, les organisations syndicales existaient bien. Les organisations étudiantine, mais on ne parlait pas de société civile en tant que telle, encore moins d'un droit à participer à l'exercice, je ne dirais pas du pouvoir, mais de participer à la gestion des affaires publiques. Les syndicats étaient là, les organisations étudiantines, on sait que c'était plus ou moins le fer de lance en fait de la lutte contre l'impérialisme, etc. Et puis il y a les organisations de femmes qui étaient plus ou moins affiliées au pouvoir en place. Je parle là de tout ce qui s'est passé sous la Première République. Très curieusement, c'est le régime militaire qui a jeté les bases de la naissance des organisations de la société civile, puisque c'est l'ordonnance de 84 qui est citée comme le premier texte régissant les organisations de la société civile. L'idée de société civile a commencé à prendre véritablement forme. C'est véritablement la conférence nationale qui lui a donné naissance, parce qu'on a commencé à créer les commissions crimes abus, les commissions de ceci et de cela.
La suite de cette édition, préparer les jeunes Nigériens à la gestion des risques de catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de brousse ou les maladies climato-sensibles, c'est l'objectif visé à travers la formation en cours à Niamey au profit de 25 jeunes leaders communautaires des 8 régions du Niger, organisée par les jeunes volontaires pour l'environnement JVE. Sani Ayouba, président du JVE, au micro de Rukayatou Abdrahman.
Il est important que nous puissions outiller les leaders communautaires sur les bonnes pratiques en matière de gestion des risques de catastrophes. Les meilleures solutions proviennent des communautés. Donc nous avons identifié les bonnes pratiques que nous avons appelées les recettes du monde entier sur la gestion à base communautaire des risques de catastrophes. Donc c'est cet outil que nous sommes en train de mettre à la disposition de ces 25 participants et puis recevoir aussi leur retour pour qu'on puisse capitaliser un document national. Généralement, il faut identifier les catastrophes naturelles qui sont les plus fréquentes au Niger. C'est surtout la question des inondations, les maladies climato-sensibles, il y a les vents violents, il y a les feux de brousse, etc. Donc par rapport à chaque cas, quelle est la meilleure approche à adopter et comment aider les communautés en termes de prévention d'abord? En cas de catastrophe, comment aider ces communautés à gérer la catastrophe? Donc nous essayons de récolter les bonnes pratiques et de les mettre en ligne pour que suffisamment de personnes puissent s'en approprier.
Parlons éducation à présent. À quelques jours de l'examen du baccalauréat 2019 au Niger, les correcteurs du bac à 2017 et 2018 attendent encore le paiement de leur reliquat des frais de correction. Ils observent les décideurs qui ont promis d'éponger incessamment ces arriérés, nous apprend Kalilou Kalassi, un correcteur de ce groupe. Il est au micro de Adama Dawaki.
La première semaine du mois de Ramadan, le ministre de l'enseignement supérieur avait effectué des visites qui l'avaient conduit non seulement au niveau du SNEX et au niveau de l'office du bac. Donc lors de ces différentes visites-là, le ministre avait eu à dire que les reliquats du bac allaient être payés dans 10 jours. Et nous voilà, nous sommes pratiquement à un mois de la fin de la fête. Et jusque-là, la question des reliquats est toujours en suspense. L'intégralité des reliquats font moins de 700 millions. L'argent alloué à l'organisation du bac 2019 ne permet pas d'organiser le bac 2019 et en même temps payer les deux reliquats. L'enveloppe allouée pour l'organisation du bac de cette année, c'est 1,6 milliard. Si dans les 1,6 milliard, on enlève pratiquement 700 millions, ça va rester 900 millions. Donc l'astuce à eux, c'est d'éponger carrément 2017 et pour 2018, commencer juste le paiement. Parce que quand on fait les calculs, ça ne va rester que 132 millions. Donc c'est avec ces 132 millions qu'ils veulent payer plus de 4 000 enseignants. Lundi, on a été reçu par le ministre Yehuda Sadissou. Il nous a encore fait une autre promesse au courant de cette semaine. Si le fait d'ici vendredi, tant mieux, on va le croire sur parole. D'ici le 30 de ce mois-ci, les enseignants ne sont pas payés intégralement. Le directeur du bac, le recteur et le ministre seront uniques responsables de ce qui adviendrait.
Depuis le mois de mars, le nombre des attaques contre les civils est en hausse dans la région nigérienne de Diffa. Plus de 140 civils ont été tués au cours des 5 premiers mois de cette année, soit le double des civils tués en 2018, selon le rapport hebdomadaire du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, exploité par l'AFP. Des attaques avaient fait 88 morts en mars à Diffa, situé près du nord-est du Nigeria, le berceau de Boko Haram, avait déploré début juin. Fatoumata Bintou Jibo, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le Niger, précise la dépêche. À présent, la partie magazine de cette édition. À Diffa, depuis 15 ans, des femmes regroupées en coopérative produisent du riz sur plusieurs hectares. Selon la présidente, cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins alimentaires, mais aussi d'aider les proches. Et comme dans tout travail, des difficultés existent, Mme Ali Hajia Balki a accepté d'en parler au micro de notre envoyé spécial Hawa Ousmane.
Pour subvenir à leurs besoins, 42 femmes de tout âge regroupées en coopérative produisent du riz depuis 15 ans dans la commune de Diffa. C'est sur un périmètre de 6,5 hectares. Madame Ali Hajia Balki.
Dans notre coopérative, nous sommes au nombre de 42. Nous produisons du riz. C'est notre principale activité, mais nous associons à cela la culture de Gombo et de l'Osaï. Ça fait 15 ans que nous menons cette activité.
Comment se fait la culture du riz?
C'est en cette période que nous semons le riz et nous ajoutons du fumier. Mais avant, nous prenons 40 jours pour préparer nos sols afin que l'eau puisse pénétrer dans nos planches.
Vous produisez quel type de riz?
Nous produisons du gabiaka. C'est une variété qui est très bonne pour la consommation.
Quelle est la superficie de votre terrain?
Notre superficie fait 6 hectares et demi.
Quel est le rendement?
Si nous utilisons beaucoup de fumier, nous pouvons produire en quantité suffisante. Si nous n'utilisons pas beaucoup de fumier et de l'eau, nous gagnons peu.
À quelle fin est destiné le riz produit?
Nous ne sommes pas arrivés au stade où nous vendons le riz. Cependant, en cas de besoin, nous pouvons vendre 2 sacs pour résoudre nos problèmes. En plus, en cas de cérémonie de mariage, de baptême ou de décès, nous prélevons 4 à 5 tia, unités de mesure ou un sac de 50 kg pour aider.
Est-ce que vous avez le soutien de l'État et ou des ONG?
Parfois, nous avons leur soutien, mais pas comme les autres qui bénéficient souvent de leur soutien. Il y a un projet qui nous a construit 4 forages et un château d'eau qui fonctionne avec de l'énergie solaire. Notre problème, ce sont les voleurs qui nous volent nos outils de travail parce que nos champs sont en brousse et vous savez qu'à Diffa, l'insécurité reste dominante. Un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de passage quand la pluie tombe. Ce sont les coris qui nous empêchent de passer. Il y a également les forages qui ne sont pas en quantité suffisante et les motopompes qui nous font défaut. Nous ne disposons que de 4 motopompes actuellement.
Comment est-ce que vous arrivez à réparer vos outils de travail en cas de panne?
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.